I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'engagement politique des jeunes aux États-Unis suite à la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride. Collégiens et lycéens se mobilisent pour lutter contre les fusillades dans les écoles. Un mois jour pour jour après cette tragédie, certains ont quitté les salles de classe mercredi en guise de protestation contre ce qu'ils qualifient d'inaction de la classe politique. D'autres ont manifesté devant la Maison Blanche à Washington. Comment percevez-vous l'engagement des adolescents aux États-Unis et dans vos pays? On en discute dans cette émission.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'engagement politique des jeunes, donc, pour nous en parler, nous avons en ligne Emilio Vienno, professeur de sciences politiques à l'American University, ici à Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Emilio Vienno, malheureusement, les fusillades dans les écoles sont fréquentes aux États-Unis. Pourtant, d'habitude, on n'observe pas une telle mobilisation des jeunes. Qu'est-ce qui explique que cette fois-ci, ils sont montés au créneau?
Oui, c'est vraiment magnifique. Il nous rappelle dans l'histoire des États-Unis des mouvements de jeunes gens, des étudiants dans les années 60-70 qui ont créé une révolution dans l'aspect politique et même de la sexualité et de l'importance des jeunes gens dans la vie et la politique des États-Unis. Et je pense que l'ex-président Obama, dans son tweet se référant à cette tragédie de Parkland, a parlé clairement de ça, qu'il lui a rappelé de ses mouvement étudiantil des années 60-70. Et ne s'était pas passé récemment. Il y a eu naturellement le mouvement Occupy Wall Street qui s'est passé il y aura 5-6 ans et c'était très important aussi. Mais celle-ci, c'est très nouveau dans ce siècle, n'est-ce pas? Le siècle nouveau. Et il nous rappelle qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition politique et maintenant, plus de tout, c'est que les jeunes gens veulent un changement. Ils ne veulent pas le status quo qui se continue à avoir le même rythme, n'est-ce pas? Il y a une tragédie, on prie, on est triste, il y a des condoléances, etc. Et après, on ne fait rien. Ils veulent qu'il y ait quelque chose de concret cette fois, particulièrement contre l'influence de l'Association nationale du rifle, le principal lobby américain des armes.
Alors, Emilio Vienno, je vous propose qu'on laisse la parole à un de nos auditeurs. Il s'agit d'Apollinaire qui est au Tchad. Bonsoir. Bonsoir, Apollinaire.
Bonsoir, madame.
Alors, Apollinaire, est-ce que les lycéens et les collégiens se mobilisent dans votre pays?
Non, je ne pense pas, madame. Je ne pense pas. Et en tout cas, je tiens à féliciter la mobilisation très, très importante qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et ça montre que ces jeunes Américains veulent prendre leurs responsabilités en main. C'est ça un très bon exemple à suivre. Chez nous, ici, c'est vraiment difficile pour que les jeunes se mobilisent pour prendre leurs décisions. Donc, c'est, à mon avis, c'est très intéressant.
Pourquoi est-ce que c'est difficile au Tchad pour les très jeunes, comme les lycéens et les collégiens, de faire pareil? Pourquoi c'est pas possible au Tchad?
Oui, madame, c'est très difficile. Ici, vous êtes sans ignorer, nous sommes impliqués dans la dictature. On a un président qui ne laisse pas la jeunesse s'épanouir. Donc, nous sommes étouffés. Même s'il y a des décisions qui n'est pas favorable à la jeunesse, je ne pense pas que la jeunesse puisse quand même sortir de la colère pour se mobiliser.
Oui.
C'est vraiment très difficile.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Apollinaire. Emilio Viano, hein, c'est rare quand même de voir les jeunes de cette tranche d'âge se positionner ainsi sur des questions politiques aux États-Unis.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un changement maintenant grâce aux médias sociaux, c'est-à-dire qu'on peut s'organiser, communiquer plus facilement et plus rapidement. Et aussi, naturellement, il y a ce sentiment d'indignation des plus jeunes. Et même la toile, comme on l'appelle, s'est enflammée, n'est-ce pas? Il y a eu des hashtags comme « Never again »,« Jamais la même chose », ou « Time to stand up », »,« C'est l'heure de faire quelque chose ». Un pleuré sur Twitter dans cette optique de faire évoluer les lois sur la possession d'armes à feu aux États-Unis. Et on doit penser à ça. Il y a eu 13 000 homicides par des armes à feu et qui ont été perpétrés depuis 2015. C'est-à-dire que dans 3 ans, il y a eu 13 000 homicides, c'est-à-dire plus de 4 400 de ces victimes avaient moins de 24 ans. C'est une chose vraiment dramatique ici aux États-Unis.
Donc ce sont eux
pas
les plus touchés.
Il n'y a pas le pays le plus violent du monde, il y en a d'autres malheureusement. Mais les jeunes gens disent plus jamais, plus d'armes à feu. Ils veulent ce renforcement du contrôle des antécédents, des acheteurs d'armes à feu. Ils veulent un changement, de mettre des limites à cette capacité que nous avons ici de tirer vite et de façon répétée, particulièrement l'interdiction de fusils d'assaut qui ont été utilisés, par exemple, à Parkland.
Ouais. Alors, on a un autre auditeur, hein, il s'agit de Osana, qui lui aussi est au Tchad. Bonsoir, Osana.
Oui, bonsoir, Morgane, et bonsoir à vos fidèles auditeurs.
Alors, Osana, que pensez-vous de cet engagement des jeunes citoyens aux États-Unis? Est-ce que ça vous inspire?
Oui, moi, tout d'abord, je salue l'effort de ces jeunes lycéens qui se mobilisent pour assurer leur propre sécurité. Parce qu'on voit que les autorités ne se soucient pas trop de ces problèmes. Et pourtant, j'ai trop de questions qui reviennent souvent dans ma tête.
Oui.
Je me demande est-ce que c'est parce que l'achat des armes fait entrer l'argent dans l'économie américaine, que les autorités ne veulent pas se prononcer sur cette question.
Oui.
Et je me pose aussi comme question, est-ce qu'il sera impossible de supprimer la loi qui autorise le port d'armes?
Mm-hmm.
Et donc, toutes ces questions me troublent un peu.
Mais alors écoutez,
là, je n'arrive pas à avoir
Osana, on va profiter... Osana, on va profiter de la présence. Oui. On a un expert avec nous, si vous voulez, je peux lui donner la parole pour répondre à vos questions. Osana se demande, Emilio Viano, si c'est une histoire d'argent. Est-ce que la vente des armes profite à quelqu'un?
Oui, on pourrait dire ça. C'est vraiment très important, naturellement, par l'économie des États-Unis, dans le sens de des armes militaires, mais aussi des armes pour les gens normaux, c'est-à-dire pour tous nous. C'est un grand commerce ici aux États-Unis et c'est très difficile de changer ça. Ironiquement, on dit que avec la proposition du président et d'autres d'armer les enseignants, la tragédie de Parkland va finir à créer plus de ventes d'armes aux États-Unis. Mm. C'est le contraire de ce qu'on voudrait faire. Mm. Mais maintenant, cette prise de conscience commence à se diffuser dans l'ensemble des États-Unis. Par exemple, de nombreuses entreprises ont commencé à se responsabiliser à prendre de réelles mesures contre les armes à feu. Par exemple, certains groupes ont décidé de rompre leur partenariat avec cette association nationale du rifle, par exemple les assureurs, les compagnies aériennes Delta United, des loueurs de voitures comme Enterprise, Hertz, Avis, ont boycotté cette lobby surpuissante. Même Walmart, le géant des supermarchés américains, a annoncé dans un communiqué à la fin de février que l'enseigne ne vendrait plus d'armes à feu ou des munitions.
Et ça, Emilio, excusez-moi de vous couper, mais ça, justement, toutes ces mesures, est-ce qu'on peut les attribuer à la mobilisation de ces adolescents? C'est grâce à eux?
Je pense que c'est une grande partie de ça, oui, parce qu'elle a vraiment frappé l'attention politique. Et comme vous savez, il y a une grande marche ici à Washington le 24 de ce mois. Et comme se passe fréquemment, elle aide beaucoup. Il y a eu bien de personnalités du cinéma, etc., comme George Clooney et sa femme, qui ont donné 500 000 dollars un don à cette marche pour nos vies, comme s'appelle, ce grand rassemblement prévu le 24 mars ici à Washington. Et l'objectif principal, c'est de demander un contrôle accru des armes à feu. Et après eux, des autres ont participé aussi, des personnalités très importantes, même et qui ont donné aussi beaucoup d'argent pour cette manifestation. Ainsi qu'il y a sept mouvements, par exemple Oprah Winfrey, Steven Spielberg, même la marque de prêt-à-porter Gucci, ont chacun fait une donation de 500 000 dollars à cette manifestation. Ainsi que c'est une prise de conscience que commence à se diffuser dans l'ensemble des États-Unis.
Alors, sur cette marche, justement, on s'attend à ce qu'il y ait des centaines de milliers d'étudiants dans la capitale le 24 mars. Vous parlez de toutes ces personnalités. Finalement, ces petits jeunes, ces petits adolescents qui ne peuvent même pas voter, ils ont une sacrée capacité de mobilisation.
Oui, et vous avez mentionné quelque chose de très important, que c'est l'ironie même de la loi aux États-Unis, parce que dans plusieurs États, un jeune homme, une jeune femme ne peut pas acheter une bière jusqu'ils ont 21 ans, mais peuvent acheter un fusil d'assaut quand ils ont même seulement 17-18. Il semble que ce n'est pas rationnel, n'est pas une politique qui est dans le sens commun. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter une bière, mais on peut acheter un fusil militaire et faire une tuerie comme la de Parkland. Et c'est très difficile de changer ça. Comme vous savez, le président, au commencement, il paraissait, il a appuyé ce changement d'âge. Mais maintenant, on dit, avec la pression de cette association nationale du rifle, il a changé d'opinion et il parle, oui, d'être plus sérieux dans la vérification de ce qui s'est passé dans la vie, n'est-ce pas, les antécédents des acheteurs d'armes à feu, mais il ne parle pas plus de ce changement d'âge, qui semble serait un symbole très important. Mais l'État de la Floride, par exemple, il l'a déjà changé au niveau de l'État même où il s'est passé cette tragédie.
Mmh. Alors, vous avez parlé de Marco Rubio, du président Trump, en réaction à ce mouvement des étudiants. On a vu des fervents partisans du port d'armes adoucir leur position. Est-ce que ces jeunes font trembler la classe politique?
Oui, je pense que oui, parce que premièrement, bien d'entre eux peuvent commencer à voter à l'âge de 18 ans. Et alors, ils peuvent déjà avoir une influence sur la composition du Congrès et même de la présidence. Et ça doit être pris en considération. Et aussi, ils ont d'influence sur, on espère, ses parents, ses amis, ses proches. Ils peuvent créer un mouvement. Et je pense qu'on doit avoir bien d'espoir parce que, par exemple, il y a 20 ans que tout le monde acceptait qu'on peut fumer. On peut fumer dans des bureaux, dans des shopping centers, dans des avions. Il y avait cette division entre fumeurs et non-fumeurs, mais c'était la même air qui circulait dans l'avion. Et on pensait que c'est impossible de changer ça. Et nous avons bien vu un changement très important. Aujourd'hui, aussi aux États-Unis, il y a beaucoup moins de personnes qui fument. Et on ne peut pas fumer dans les édifices, dans les avions, même pas à l'extérieur. Et on doit maintenir une certaine distance des bâtiments, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on ne pouvait pas le croire il y a 20-30 ans. Et aussi, la même chose, je pense, se passe ici, que peu à peu, on peut changer. Je pense qu'une raison pour la culture des armes, c'est la culture, on peut dire, plus rurale vers la culture plus de cité urbaine. Et comme la population des États-Unis est en croissance dans les villes, je pense qu'on va peu à peu changer cette mentalité. C'est-à-dire décider où on place la limite entre la légitime défense ou la chasse, par exemple, ou des armes de destruction militaire. Ça, c'est très, très important parce que, savez-vous, plus de 100 lois sur le port d'armes ont été proposées au Congrès entre 2011 et 2016 et aucune n'a été votée avec succès. Ça, c'est vraiment dramatique.
Alors, je vous propose qu'on prenne rapidement un autre auditeur. Et il est également au Tchad, il a N'Djamena, et c'est Archeduc. Bonsoir, Archeduc.
Oui, bonsoir, Morgan Guérac, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, l'engagement des lycéens et des collégiens, des très jeunes, donc des adolescents, vous en dites quoi, que ce soit aux États-Unis ou chez vous au Tchad?
Voilà, au fait, pour moi, le fait de s'engager, sortir massivement pour soulever un problème d'ordre social ayant des incidences économiques, pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on devait d'abord privilégier le social et l'économie viendra après en faveur du social. On sait aux États-Unis, les recettes venant de la vente des armes sont énormes et ça contribue au financement du budget de l'État. Mais le fait que chaque Américain soit victime des criminels qui ont acheté ces armes-là demeure un problème crucial où le gouvernement américain sera contraint de voir sur la jeunes-là qui manifestent parce qu'ils veulent la stabilité, ils veulent une vie de sécurité. Et pour moi, c'est normal. Les États-Unis font partie des pays qui demeurent les destinations les plus aimées au monde. Par exemple, au Tchad, tout Tchadien, tout jeune Tchadien reste d'aller aux États-Unis et aller aux États-Unis demeure un très bon rêve. Donc, le gouvernement américain a le devoir d'arranger cette situation de stabilité-là, même s'il faudrait que cela soit en défaveur de l'économie, c'est-à-dire la vente massive des armes pouvant apporter des recettes au gouvernement américain.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Archeduc. Emilio Viano, ces jeunes, hein, ils se disent frustrés par les décisions des adultes, des décisions qu'ils désapprouvent, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, mais qui les affectent. Ils se disent oubliés par les leaders. Alors finalement, ces mouvements de jeunes, est-ce qu'ils ne traduisent pas une lacune de la démocratie? Les jeunes, finalement, c'est l'avenir, c'est la prochaine génération, mais ils n'ont pas voix au chapitre.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un moment très spécial ici aux États-Unis. C'est dommage, naturellement, qu'il y ait des tragédies comme celle-ci de Parkland, Columbine et bien d'autres pour les mobiliser. Mais enfin, on parlait fréquemment que cette génération n'est pas très intéressée dans la politique, qu'ils ne sont pas actifs politiquement, qu'ils ne vont pas voter, et qu'ils n'appuient pas un parti ou l'autre.
Qu'ils sont individualistes, que... autocentrés. On a dit beaucoup de choses sur cette génération.
Oui, c'est ça. Mais on voit maintenant que sans nécessairement être avec les démocrates ou les républicains, ils veulent ce changement parce que enfin, ils sont toutes des victimes possibles d'une autre fusillade comme c'est passé à Parkland, parce qu'il y en a eu bien d'exemples déjà dans tous les pays et ils ne cessent pas. Si on parle d'un épisode de violence comme celle-ci, quand il y a 1, 2, 3 victimes, il y en a particulièrement presque toutes les semaines dans des écoles contre des jeunes gens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment très dramatique, même pour les parents, de penser que mon fils, ma fille vont à l'école et il n'est pas un lieu sûr. Mmh. Le président a parlé d'armer 20% des enseignants afin qu'ils puissent défendre les élèves en cas d'attaque. Mais c'est une proposition qui a déclenché des vives réactions au sein du milieu éducatif et de la population, parce que on pense que ça pourrait être le contraire, qu'avec des enseignants armés, il pourrait avoir des accidents, il pourrait avoir des malentendus, ou peut-être même une réaction d'un enseignant contre un jeune homme, une jeune femme, qui est peut-être un peu violent, qui n'obéit pas les ordres de l'enseignant, ou peut-être pour du racisme ou de stéréotypes. Oui. Et alors, il y a ceux qui ne sont pas très contents de transformer les écoles dans un lieu armé. Et c'est aussi une des revendications de ces jeunes gens qui disent nous ne voulons pas aller à un lieu où il y a bien d'armes à feu. Oui. Et c'est comme une forteresse contre le monde dehors, mais ne devrait pas être ainsi pour une école.
Oui, ce ne sont pas des conditions pour étudier. Alors, je vous lis un commentaire, hein, c'est celui d'Ikonga Baku sur Facebook. Il dit « Dans mon pays, la RDC, la pauvreté règne et l'engagement des jeunes est souvent synonyme d'instrumentalisation politicienne. Quand les jeunes protestent, dans la plupart des cas, ils sont payés par des politiciens. » Alors, ici aussi, hein, Emilio Viano, ce qui dérange une partie de l'opinion dans ce mouvement des jeunes, c'est qu'ils peuvent être instrumentalisés, manipulés par les adultes. Qu'en pensez-vous ?
On a déjà parlé de ça ici, comme vous savez. Il y a eu de personnes de la droite, on peut dire comme ça, qui pensent que c'est anti-américain de mettre des limites à notre capacité d'avoir des armes à feu, de les utiliser, quoi qu'il soit, pas de limites. Et ils ont déjà accusé quelqu'un dans ce mouvement, particulièrement à Parkland, Floride, d'être de porte-voix, de parler contre le président et contre les républicains et en faveur des démocrates. Mais je pense que ça ne c'est pas ça. On a parlé bien de tout ça. C'est déjà passé un mois depuis de cette fusillade et on peut voir que ce n'est pas un mouvement politique, ni démocrate, ni républicain. C'est vraiment seulement des jeunes gens et des parents, naturellement, et des autres, et même d'enseignants qui veulent plus de sécurité dans les écoles, oui, qu'ils veulent un changement dans les lois, particulièrement l'âge et la vérification des antécédents. Parce que, savez-vous, il y a cette loi sur la vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu, mais il ne s'applique pas du tout si on va à un marché à l'air ouvert, c'est-à-dire, ou on achète une arme par Internet. il s'applique seulement si on va à acheter une arme à feu dans Walmart, par exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une contradiction. Il y a une loi, mais il y a une loi qui permet de ne pas le faire si simplement on achète une arme à feu de son voisin, d'un ami ou dans un marché à l'air libre. Et ça n'est pas juste. On y a bien de possibilités de verrouiller un peu ça. Alors, et de créer une condition plus sûre.
Ce sont les mots, vous entendez la musique, hein, c'est la musique de la fin. L'émission est terminée. Merci, hein, Emilio Viano, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'American University de Washington, D.C. Merci à Jacques Thierneau à la production, Morgane Diriec au micro. À bientôt.